Les vivants et les dieux, symboles et religions, par Michel Cazenave. Aujourd'hui, Saint Augustin.
À peu près tout le monde est d'accord aujourd'hui pour dire que Saint Augustin marque la différence, je dis bien la différence, pas encore la rupture, mais la différence entre ce qu'il sera convenu plus tard d'appeler la théologie latine et la théologie grecque, c'est-à-dire la théologie de l'Église orthodoxe. Il faut dire évidemment que cela est dû en grande partie à l'époque, puisque Saint Augustin naît au milieu du 4e siècle après Jésus-Christ, il meurt à la fin du premier tiers du 5e siècle, mais surtout, dans cette époque, c'est le moment où Saint Augustin assiste à la chute de Rome devant les tribus germaniques, alors que l'Empire de Byzance, lui, va continuer à exister pendant à peu près un millénaire. Mais il faut dire évidemment que la division, ou tout au moins la différence entre Rome et Byzance, avait déjà été établie par la diarchie qui avait été installée au sommet par les empereurs, alors même que pourtant les derniers empereurs avaient essayé souvent de retrouver l'unité de l'Empire. Et Saint Augustin, de ce point de vue-là, est le fondateur de ce qu'on appellera la théologie latine. Il se démarque, encore qu'il est en communion de pensée avec eux, mais il se démarque des grands théologiens qui l'ont précédé et qui sont surtout les pères de Cappadoce. Et de ce point de vue-là, effectivement, Saint Augustin est absolument primordial, puisque à l'origine de notre développement culturel, à l'origine de notre histoire des idées, et d'une certaine manière, à la fois par l'invention de l'intériorité, l'invention de ce qu'on appellera plus tard la subjectivité, à la fois par sa réflexion, même si souvent elle ne sera pas toujours très bien comprise, mais sa réflexion sur le rôle de la grâce et de la prédestination, il fixe d'une certaine façon l'ensemble des querelles théologiques et des querelles philosophiques pour des siècles. Or, voici que, à propos de Saint-Augustin, vient de paraître une immense encyclopédie aux éditions du Cerf, dirigée à l'origine par Alan Fitzgerald, mais dont l'édition française a été assurée par Marianne Vanier, qui permet en quelque sorte de faire le tour, j'allais dire de la planète, mais c'est beaucoup plus que de la planète, c'est plutôt de la galaxie Saint-Augustin, et afin de comprendre précisément cette figure, afin de comprendre son importance, afin de comprendre ce qu'il y a de nouveau en lui qui va fonder précisément toute une tradition à la fois de réflexion et toute une tradition spirituelle, nous avons avec nous Marianne Vanier qui a dirigé ce volume, professeur de théologie à l'université de Metz, et Bertrand Vergely, professeur de philosophie en classe préparatoire à l'École normale supérieure et professeur par ailleurs de théologie à l'Institut Saint-Serge. Bertrand Vergely, quand on parle de Saint-Augustin, on a souvent l'impression que finalement on a affaire à deux hommes qui certainement ont des relations entre eux, mais qui apparaissent comme assez distincts, à savoir d'une part l'homme vivant, si on peut dire, l'homme d'intériorité, celui qu'on trouve dans les confessions, et d'autre part un théologien parfois un peu redoutable.
Tout à fait. Je crois que Saint-Augustin est à la charnière de deux mondes. Premièrement, Saint-Augustin, c'est l'homme qui invente la philosophie moderne. C'est le dernier philosophe de l'Antiquité, le premier philosophe de la modernité, à travers l'intériorisation de la philosophie dans l'homme intérieur. Et d'autre part, c'est un homme qui, en 417, est le témoin de la prise de Rome par les barbares d'Alaric. C'est un homme qui a peur. C'est un homme qui est effrayé et qui, à un moment, se dit en quelque sorte « il faut absolument sauver la civilisation ». Et il va théoriser l'Église sur le mode d'une armée, avec le pape, un général en chef, les cardinaux, les évêques, les prêtres qui vont être l'armée. Et c'est un homme effectivement redoutable. Hein, n'oublions pas que Saint Augustin est celui qui, à un moment, théorise l'idée de la damnation des enfants qui n'auront pas été baptisés. chrétien. Il s'agit de compter ses troupes.
Si on reprend Saint-Augustin dans sa trajectoire de vie, si l'on peut dire, on a l'impression quand même d'un homme extraordinairement vivant, extraordinairement contradictoire d'ailleurs à certains points de vue, parce que on ne peut pas oublier qu'il n'a quand même pas toujours été chrétien finalement.
Oui, il y a une évolution et c'est quelqu'un qui est attachant dans la mesure où il a beaucoup changé, il est revenu sur un certain nombre de ses prises de position alors que on aurait pu penser que c'était un dogme, mais on en a fait parfois des dogmes pour la suite, et lui-même est passé d'un état où il se posait un certain nombre de questions, il aimait beaucoup la vie, après le manichéisme, après le christianisme, il y avait tout un ensemble de variations, et c'est assez passionnant.
Oui, mais justement, on a souvent du mal à suivre, je dirais, l'état réel de sa pensée, parce que, bon, vous dites, il a été manichéen, on le sait très bien, bon, ensuite il s'est retourné contre le manichéisme, mais on a l'impression quand même qu'il lui en est resté quelque chose, d'une certaine manière, il a été très platonicien, puis il s'est écarté du platonisme, mais en même temps, on voit bien qu'il y a une immense tendresse qui reste toujours pour l'œuvre de quelqu'un comme Plotin. Donc on a l'impression qu'il y a quelque chose qui est, sinon toujours complètement fixé, mais je dirais toujours en mouvement.
Oui, et d'ailleurs, c'est le seul auteur qui écrit des révisions à la fin de sa vie. Il a repris tous ses ouvrages en disant « voilà ce qui est valable, voilà ce qu'il faut changer ». C'est quand même assez extraordinaire que quelqu'un fasse ça, parce que l'idée de progrès, qui est une idée quand même du XVIIIe siècle, essentiellement, il l'a vécu.
Lesbio prims modulate civi, qui ferox bello tamen inter arma, sive iactatam religara tudo, litore navi.
Dans l'œuvre même de Saint-Augustin, j'aimerais bien, Marianne Vanier, qu'on fasse un peu quand même un sort aux confessions. Dans la mesure, bon, d'une part, évidemment, il rapporte ce qu'est sa vie, mais sa vie, c'est d'abord sa vie intérieure. Et on a l'impression que là, je dirais, il crée quelque chose qui est finalement la fondation de ce qu'on va plus tard appeler la subjectivité et qui n'existait pas avant lui.
Oui, et on a l'impression dans les confessions que à la fois, bon, il y a un genre littéraire qui est créé parce que c'est pas une autobiographie comme telle, et en même temps que le sujet Augustin se constitue au fur et à mesure des confessions. Et à la fois, il y a le moi d'Augustin, mais en même temps, toute cette constitution du sujet dans l'intersubjectivité, dans l'altérité, est quelqu'un qui semble très moderne, presque. Bon, bien sûr, les allusions à tel ou tel événement de l'époque le situent, mais en même temps, quelque chose de tout à fait nouveau, presque, on pourrait dire, qu'il anticipe Descartes.
Mais d'une certaine manière, à travers les confessions, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'assez étonnant qui se donne, qui est finalement sa relation à Dieu? Parce que, je dirais, on a l'impression à certains moments, lorsqu'on lit d'autres traités de Saint-Augustin, que Dieu est de l'altérité radicale, si on peut dire, de la transcendance absolue, et en même temps dans les confessions, qu'il n'y a rien de plus proche que Dieu, et que Dieu est dans son cœur, d'une certaine manière, et qu'à la limite, il y a presque une espèce d'immanence. Donc, comme s'il y avait de la transcendance immanente, enfin, si on peut se servir de termes aussi contradictoires.
Oui, bah, c'est le Dieu plus intérieur à moi-même que je ne le suis, et au-delà de moi-même, intérieur intimum meo et supérieur sumum meo en latin, c'est cela. Et il y a quelque chose de remarquable, c'est ce dialogue. On a l'impression d'une présence continuelle. Et c'est vrai qu'il est rhéteur et il joue beaucoup sur le terme de confession avec les trois sens, à la fois un aveu, en même temps une confession de foi, et aussi une louange. Or, cette louange, c'est ce qu'il vit, et lui-même se situe un peu comme le psalmiste. C'est vrai qu'on a beaucoup de versets de psaumes, et c'est ce dialogue avec Dieu qui est continuel et qui est tout à fait remarquable. Il est rare de trouver un ouvrage où il y ait une telle présence comme telle, et sa subjectivité est toujours confronté à l'altérité de Dieu. Il y a vraiment ce dialogue qui est présent et qui est constitutif un peu, parce que on a l'impression que le sujet augustin du départ devient l'accomplissement du sujet augustin à la fin. Il y a quelque chose, un peu tout un renversement qui se joue, qui est passionnant, il y a peut-être théâtral presque.
Comme tu nous as aimés, ô Père de bonté, toi qui n'as pas épargné ton Fils unique, mais l'as livré aux impies que nous étions, comme tu nous as aimés. Car c'est pour nous que lui, qui sans usurpation se tenait pour ton égal, est devenu soumis jusqu'à mourir en croix, lui, le seul qui fut libre entre les morts. Il avait le pouvoir de déposer sa vie, il avait le pouvoir de la reprendre. Il est pour nous devant toi victorieux et victime, et victorieux parce que victime. Il est pour nous devant toi sacerdoce et sacerdoce parce que sacrifice. Pour toi, de serviteur, il fait de nous des fils, en naissant de toi, en nous servant nous. À juste titre, j'ai le ferme espoir en lui que tu guériras toutes mes langueurs par celui qui est assis à ta droite et intercède auprès de toi pour nous. Autrement, je serais au désespoir. Car nombreuses et grandes sont ces langueurs en moi, nombreuses et grandes, mais plus large est ton remède. Nous aurions pu croire que ton Verbe était bien loin de s'unir à l'homme et désespéré de nous s'il ne s'était fait chair et n'eût habité parmi nous. Saint Augustin, Les Confessions, livre 10.
Ce qui me fascine dans les confessions, c'est au fond le passage qu'il y a à propos de Dieu. Pour dire les choses d'une manière peut-être un peu réductrice, mais qui permettent de les appréhender, je dirais qu'il y a deux types de relations possibles à Dieu. Vous avez d'abord le Dieu d'Aristote, le Dieu cause, le Dieu qui permet de penser le monde. Et c'est vrai que l'idée de cause est de ce point de vue indispensable. Il existe à la base du monde une intelligence qui est l'intelligence de toute intelligence et qui permet de rendre le monde intelligible. Ça, c'est le Dieu cause. Le seul problème du Dieu cause, c'est que ce Dieu se casse la figure, si j'ose dire, devant la question du mal. Et qu'à un moment, si je suppose que le monde est pensable et intelligible, je suppose que tout a du sens. Si je suppose que tout a du sens, je suppose que le mal a du sens. Et si le mal a du sens, le mal n'est pas le mal. Le mal n'est cohérent que si je m'oppose à lui. Alors qu'est-ce que découvre Saint Augustin ? Saint Augustin découvre un autre Dieu, qui n'est pas le Dieu cause, mais qui est le Dieu intérieur, qui l'amène à réagir contre le mal qui est en lui. Et ça, je dirais que c'est le Dieu moderne. Qu'est-ce que c'est que le Dieu moderne ? C'est le Dieu qui, à un moment, découvre la limite de Dieu. Je dirais que, qu'est-ce que c'est que le Dieu moderne ? C'est exactement ce qui se trouve dans l'expérience de la raison. La raison, c'est, est vraiment raisonnable quand elle trouve les limites de la raison. Et quand elle a la raison de la raison, qu'elle ne raisonne pas tout. Et qu'elle passe à ce moment-là du théorique au pratique. Et ne pas tout raisonner, tout d'un coup, ça devient la seule manière de pouvoir agir contre le mal, qui est de dire non. Donc, qui est Saint Augustin ? Saint Augustin est l'homme qui, tout d'un coup, découvre les limites de la raison avant Kant, le passage de la théorie à la pratique, et un autre visage de Dieu. Qu'est-ce que c'est que Dieu ? Dieu, ce n'est plus l'intelligence de toute l'intelligence, c'est l'impensable. Il y a un impensable en moi qui me permet de lutter contre le mal et de faire advenir quelque chose d'autre qui est le bonheur ou la félicité. Donc nous sommes dans un autre schème. Il y a d'une part le schème contemplatif, je conçois le monde avec intelligence, et d'autre part, il y a la mise en mouvement, en quelque sorte, de la philosophie avec le schéma actif. J'arrête de contempler le monde, mais j'agis et le sens désormais passe par moi.
Bertrand Vergely, ce que vous nous exposez sur Saint-Augustin, est-ce que cela pourrait avoir un sens si pour Saint-Augustin précisément, Dieu n'était pas une personne? Ce que je veux dire, c'est que déjà les penseurs chrétiens l'avaient affirmé avant lui, mais on a l'impression qu'il lui donne une dimension tout à fait supplémentaire, je dirais presque de dialogue à l'intérieur de son âme, avec le Dieu comme un tu en face de lui.
Tout à fait. C'est-à-dire on n'est plus dans le cosmos, on est dans la personne. Il y a, quelle est la vérité? La vérité du monde se trouve dans la personne. Pourquoi? Parce que désormais, la vérité du monde se trouve non pas dans ce que je vois, mais dans ce qui me permet de voir. Et ce qui me permet de voir, c'est une conscience infinie, une personne infinie qui m'appelle de l'intérieur. Donc on est dans un tout autre mode. Il y avait déjà des choses qui allaient dans ce sens dans la philosophie antique, mais la philosophie antique était encore marquée par le cosmos et, en un certain sens, par la question de la nature et de la matière. Avec saint Augustin, on décroche et on passe dans le monde de la personne. Et cette personne, Augustin, le sent sous la forme d'un appel. Un appel intérieur qui m'appelle à changer. Et cet appel intérieur va fonder une philosophie du temps et une philosophie du bonheur. C'est-à-dire que tout d'un coup, je ne me situe plus dans l'espace, mais je me situe dans mon histoire intime et dans un dialogue intime avec une voix qui, à un moment, ou tressaille d'allégresse lorsque j'agis bien, ou alors est totalement angoissée et triste quand j'agis mal. Et l'âme va connaître cette fluctuation entre des moments de félicité, des moments d'angoisse. Et justement, Augustin raconte l'histoire de son âme et fait une expérience. L'expérience d'une rencontre avec une voix intérieure.
Et justement, est-ce qu'on ne peut pas dire d'une certaine manière que avec ce Dieu qu'il découvre dans sa conversion, Augustin, d'une certaine manière, n'a jamais fini de s'expliquer. Il n'a jamais fini d'essayer de le comprendre comme si il était toujours au-delà de toute compréhension, même si on va le plus loin que l'on peut.
Ah oui, c'est vraiment un chercheur continuel. Et lui-même va s'identifier à différentes figures bibliques, à Moïse, au psalmiste, parce que justement c'est celui qui cherche continuellement. Et si on prend les confessions, on a le début des confessions, l'inquietum cor, le cœur inquiet, mon cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il repose en toi, la finale qui est le repos, mais qui est toujours une sorte de point d'horizon. Parce que ce repos, il ne l'a jamais, il le cherche. Et le désir, parce que toute la dimension de désir chez Augustin est fondamentale. Et cette quête continuelle.
Oui, mais de ce point de vue-là, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui rappelle le fameux psaume, vous savez, de la biche qui boit dans la rivière, et de commentaires qui en est souvent fait, qui est de dire que finalement, plus on boit et plus on a soif. Bon, ce qui est le contraire même de la logique à laquelle on s'attendrait.
Oui, et ce psaume, il l'a commenté, et c'est véritablement un chef-d'œuvre, son commentaire du psaume 41 pour lui, 42 pour nous, et il insiste sur cette soif, et en même temps, sur la question « Où est ton Dieu ?» et là aussi, il est inquiet, il essaye de le dire. Et ce qu'il donne, c'est un peu son expérience, que son Dieu est intérieur, mais qu'il est au-delà, avec cette notion de réverbératio. Il dit, j'ai répandu mon âme au-dessus de moi-même, mais bon, c'est là qu'est mon Dieu, mais c'est pas trop. Il y a cette dimension de mystère qui intervient.
Liberum et musas veneremque et illi, semper frentem puerum canebat, et licum nigris oculis nigroque, crine decorum.
que le Christ s'est créé une mère lorsqu'il était dans le sein de son Père, et il est né de cette mère sans quitter le sein de son Père. Comment pourrait-il cesser d'être Dieu en devenant homme, lui qui a donné à sa mère de rester toujours vierge, même dans son enfantement? C'est le même Dieu qui est homme. C'est le même homme qui est Dieu. Il n'y a point confusion de nature, mais simplement unité de personne. Disons encore que le Fils de Dieu, coéternel au Père qui l'a engendré, a voulu avoir un commencement en naissant d'une vierge comme fils de l'homme. C'est ainsi que l'humanité est venue se joindre à la divinité du Fils, sans faire cependant une quatrième personne dans l'immuable Trinité. Saint Augustin, sermon 186.
Le monde antique, c'est un monde qui a le sens de la perfection divine. Le monde chrétien, c'est le monde de la kénose où Dieu s'efface devant l'homme et d'abord devant son Fils pour dire à son Fils et à l'homme, je ne veux plus que tu ailles vers moi, mais je veux que tu ailles vers toi. Et donc là, il y a un basculement. Dans le monde antique, c'est l'homme qui va vers Dieu. Dans le monde chrétien, c'est Dieu qui va vers l'homme pour que l'homme aille vers lui-même. Et là, nous avons encore quelque chose qui n'efface pas l'inouï de Dieu que l'on trouve dans le monde antique, mais qui lui montre, qui lui donne une dimension encore plus stupéfiante que celle que nous imaginions. C'est-à-dire, je crois que Augustin est un penseur de l'intime. Et ce qu'il veut dire, on n'imagine pas non seulement à quel point Dieu est parfait, mais combien Dieu est intime. Et donc, c'est pour ça qu'il est aussi le grand prophète de la subjectivité occidentale et de l'histoire d'une âme. Et le roman, la littérature, l'art, tout ce qui va suivre sont incompréhensibles sans cette découverte de l'intime.
Cette intimité dont vous parlez, Bertrand Vergely, comment peut-on la cerner au juste? Parce que je ne peux pas m'empêcher de penser à la parole dans la fameuse épître de Paul, c'est moi qui vis, non, ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Donc on a l'impression que ça, Saint Augustin le vit très intensément. Et en même temps, ce Christ qui vit en nous, d'une certaine façon, il vit en nous, même si nous ne le savons pas. Et je dirais que d'une certaine façon, ce à quoi nous sommes appelés, c'est à découvrir qu'il vit en nous. Parce que là aussi, il me semble que Saint Augustin tient très très fort cette idée qui est devenue un lieu commun presque. Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas découvert.
Alors je crois qu'il y a trois choses chez Augustin qui sont très importantes, le temps, la culpabilité et le bonheur. D'abord, il y a le temps. Il y a le mystère extraordinaire du fait que nous vivons dans un monde qui est passager. Et nous sommes capables de saisir quelque chose de ce qui est passager. Et là, c'est l'extraordinaire découverte de la manière dont Dieu s'offre à l'homme. Dieu s'offre à l'homme comme étant cette capacité de présence à ce qui est passager, qui est capable de convertir ce qui est passager en présence. Et là, toute la phénoménologie rend justice à Augustin d'avoir fait une découverte absolument extraordinaire, c'est que la présence est le fond du temps. Le temps est incompréhensible sans la présence, et on peut dire que Heidegger reprendra Saint Augustin en montrant que le fond du temps, c'est l'être. Et pour ça, il faut découvrir que je suis une subjectivité, que Dieu, le nom de Dieu est je suis, il est aussi une personne, et donc on est là dans quelque chose de plus profond. Donc qu'est-ce que c'est que ce plus profond? Ce plus profond, c'est ce qui nous interroge. Ce qui nous interroge en particulier à travers l'expérience du désir de bonheur. Et le fondement qu'on retrouvera d'ailleurs chez Pascal, le fondement de l'homme est l'aspiration au bonheur qui donne du sens à tout le texte biblique sur le paradis et sur la signification de Dieu. Qu'est-ce qui fait que Dieu existe? Réponse, l'homme a une aspiration à la vie infinie. Donc, il ne chercherait pas l'infini si celui-ci n'existait pas. Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas trouvé. Donc, j'ai cette aspiration à la vie infinie. Signe que, quelque part, l'homme ne se contente pas de l'homme. L'homme passe l'homme, pour reprendre Pascal. La définition de l'homme n'est pas humaine, elle est quelque part divine. C'est, et d'ailleurs, c'est la preuve, c'est l'homme qui veut Dieu. Et par là même, alors il y a cette extraordinaire réflexion sur la culpabilité, c'est que quand je ne suis pas en accord avec moi-même dans les actes de ma vie, et quand à un moment cette perfection ne s'actualise pas et n'est pas présente, j'ai mal, et j'éprouve en moi les tourments de la mélancolie, de la névrose, de toutes les maladies de l'âme. Car au fond, c'est un grand livre de psychanalyse que nous décrit Augustin. C'est un extraordinaire travail d'anamnèse et travail analytique.
L'une des questions qu'on peut se poser, Marianne Vanier, est celle du rapport de Saint-Augustin au platonisme. Parce que d'une part, on voit bien quand même qu'il est imprégné de platonisme, qu'en même temps il le dépasse à travers la personne de Christ, enfin la fameuse adresse au Plotin disparu, « Si cognovices Christum, si tu avais connu le Christ », d'une certaine manière, bon, ton œuvre se serait couronnée. Et de ce point de vue-là, on a l'impression que Augustin marque le pivot, si on peut dire, de ce qui va être le platonisme chrétien, au moins en Occident.
Oui, et en même temps... Il dépasse le platonisme, parce que si on prend le livre 7, à partir du chapitre 10 jusqu'au chapitre 21 à peu près, on a à la fois la méthode néoplatonicienne qu'il reprend pour le retour à soi, la connaissance de soi, mais le résultat est différent, c'est-à-dire au lieu de passer de la nature à l'âme, à l'esprit, et en venir à la fusion avec l'un, c'est autre chose qui intervient, c'est à la fois une expérience de lumière, mais aussi de rejet. Il a conscience de ses limites, il dit « j'étais rejeté loin de toi dans la région de la dissemblance », mais en même temps, il se sent aussi élevé d'une certaine manière, et il y a toute la métaphore de la patrie et de la voix, et il dit que les platoniciens lui ont donné de découvrir la patrie, mais pas la voix, qui est le Christ. Donc là, il essaye, à travers cette double métaphore, de préciser l'acquis du néoplatonisme, qui est fondamental. Et par rapport au manichéisme, il a découvert un être spirituel. Donc là, quelque chose de différent. Mais en même temps, il n'a pas la voix, il trouve la voix dans la lecture de saint Paul, la figure du Christ comme telle.
Oui, mais précisément, est-ce que c'est pas à travers saint Augustin que l'on saisit le mieux, je dirais, la nouveauté radicale du christianisme, c'est-à-dire par rapport à tous les systèmes de pensée, et Dieu sait que maintenant on a essayé de montrer comme le platonisme annonçait le christianisme d'une certaine manière, ou était compatible avec lui, ce que nous savons bien, mais de montrer que la nouveauté radicale était vraiment l'incarnation, qui changeait absolument tout. Et on a l'impression qu'Augustin est quand même un grand philosophe de l'incarnation.
Oui. Oui, et l'incarnation est tout à fait centrale. Bon, il dit dans les confessions, c'est le Christ médiateur qu'il découvre, mais ensuite, il réfléchit sur l'incarnation, et par exemple, le sermon d'Olbeau 26, l'un des sermons récemment découverts en 1990, est vraiment consacré à l'incarnation, tout du moins au Christ médiateur comme tel, et c'est vraiment un acquis de la pensée d'Augustin.
Et ce qui est assez étonnant, c'est que précisément, lorsqu'on le voit réfléchir sur le Christ médiateur, c'est-à-dire aussi finalement sur la double nature du Christ, je dirais, il anticipe quand même très largement sur le concile de Castelnuovo. C'est-à-dire, en gros, on revient bien aux deux natures, et la double nature sans distinction et sans confusion.
Oui. Alors peut-être la seule chose, c'est qu'il ne disposait pas encore du vocabulaire, mais tout de même, il a essayé de réfléchir sur la notion de personne, et les deux natures comme telles sont vraiment bien posées. Ce sermon d'Olbeau 26, tout est très clair, et en même temps orchestré de manière rhétorique en plus. Ça, c'est tout à fait intéressant chez Augustin.
Pour que Dieu soit médiateur, il faut qu'il prenne une nature qu'il n'avait pas. Mais pour nous faire arriver au terme, il faut qu'il demeure ce qu'il était. Dieu lui-même reste Dieu. L'homme s'unit à Dieu pour ne faire qu'une seule personne, accedit homo Deo, et fit una persona. Ce n'est point un demi-dieu, un dieu qui ne soit qu'à moitié dieu, un homme qui ne soit qu'à moitié homme. Il est Dieu tout entier et homme tout entier, comme Dieu notre sauveur et comme homme notre médiateur. C'est par lui que nous allons jusqu'à lui. Nous n'allons point par un autre à un autre qui ne serait pas lui. Saint Augustin, sermon 293.
Alors, par ailleurs, il y a quelque chose sur quoi on n'insiste peut-être pas assez, il me semble, chez Augustin, c'est, je dirais, l'héritier de toute la tradition de littérature latine. Parce que c'est quand même un admirable rhétoricien.
Oui. Oui, et là, c'est dommage de le lire en français. Le lire en latin permet de voir justement tout le jeu verbal qu'il utilise et toute sa culture, en particulier toute sa connaissance de Cicéron et d'autres. Et vraiment, c'est un monument comme tel de la culture antique.
Mais je vais vous poser une question impertinente. Est-ce qu'à certains moments, à la limite, je dirais, il ne connaît pas trop bien la rhétorique ? Parce qu'on a l'impression qu'il se laisse entraîner lui-même, je dirais, par en fin de compte, une grande facilité, un très grand talent, le jeu avec le langage, la connaissance, on le voit bien, de toute la grande littérature latine, et on se demande si parfois, quand même, ça ne l'entraîne pas un peu plus loin qu'il ne le voudrait.
C'est vrai, dans les controverses, par exemple, avec Fortuna ou avec d'autres, la rhétorique l'aide beaucoup. Mais en même temps, ce qui est remarquable, et là c'est un peu un parallèle avec Basile, c'est que la rhétorique tourne pas un vide, mais à chaque fois il y a un sens. Il a ce génie de pouvoir utiliser la rhétorique, mais en même temps pour arriver à un but. Et généralement, il y a toujours un enjeu... Je connais pas vraiment de texte d'Augustin où il y ait que la forme qui intervienne. Alors bien sûr, là je prenais l'exemple de la vision d'Hostie. On a bien sûr en arrière-fond toute la méthode néoplatonicienne. On a une rhétorique aussi. Bon, il y a d'autres passages des confessions qui sont des relectures littéraires et une mise en œuvre de la rhétorique, mais avec un objectif très précis à chaque fois.
Il y a un autre aspect sur lequel souvent on n'insiste pas beaucoup d'Augustin, qui est que quand même il était évêque, qu'il avait en charge des âmes, qu'il avait en charge ce qu'on appellerait un diocèse aujourd'hui, et qu'apparemment quand même il prenait ça très très au sérieux.
Oui, et même, il dit dans certaines lettres qui ont été découvertes récemment, que lorsqu'il allait à un synode, il préparait ses homélies, il préparait tout un cadre, et que l'ensemble devait être lu quand il n'était pas là, ce qui fait que là, il avait un suivi, je crois.
Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que... Bon, il y a le grand théologien, si on peut dire, mais qu'en même temps, à travers ce qu'on peut connaître maintenant, il était quand même extrêmement sensible, finalement, à la vie de chacune de ses ouailles, à leurs tentations, à leurs chutes, à leur manière de se rédimer, et qu'il y avait quand même une charge d'humanité extrêmement forte.
Oui, et on voit ça aussi dans sa correspondance. Parce que dans sa correspondance, il suit un petit peu chacun. On n'a bien sûr pas toutes ses lettres, mais c'est intéressant de voir comment il est attentif à tel ou tel point. Et même dans ses homélies aussi, on a l'impression qu'il y a des variations, parce que bien sûr, on a un texte, nous, et il y avait une sorte de dialogue qui intervenait, des réactions, et on se rend compte qu'il y a des changements qui interviennent, une attention très grande finalement aux uns aux autres, ou bien à l'ensemble, quand c'est un groupe comme tel.
Oui, mais justement, est-ce que ce n'est pas une dimension d'Augustin qui a été en partie occultée, ce que j'appellerais la charité en acte, en fin de compte, et que on ne voit plus que l'intellectuel d'une certaine manière.
Oui, malheureusement. Et cette charité est réelle, et en même temps l'amitié aussi, parce que bon, on dit Augustin a beaucoup parlé de l'amitié, mais lui-même à certains moments dit que il souffre de l'éloignement de ses amis. Lorsque Alipius par exemple est nommé évêque, son grand ami, c'est un déchirement. Et là on a toute cette dimension d'Augustin qu'on connaît assez peu, et Il faudrait le resituer davantage de manière historique, sociale, pour en prendre toute la mesure.
D'une certaine manière, on voit qu'il contresigne, je dirais. Finalement, les paroles de la Bible, chaque jour, Dieu créant, ayant créé, dit « c'est bon ». Et en même temps, comment peut-on avoir cette position et en même temps être le théoricien du péché originel ?
Voilà, c'est une difficulté de l'œuvre d'Augustin, parce que je pense que s'il n'y avait pas eu Pélage, il n'en serait pas venu jusque-là, parce que tout le problème de la controverse pélagienne. Mais c'est vrai que là, il s'est tout à fait durci. Et en même temps, une lecture assez erronée de la Bible, du moins le texte biblique qui n'était pas très bon, et à partir de là, son commentaire qui dérive. Mais c'est surtout par rapport à Pélage, bon, qu'il essaye de voir comment répondre et qu'il en vient au péché originel.
Alors, je distinguerai deux types de culpabilité. Il y a une culpabilité créatrice qu'on voit chez Augustin, et chez Dostoïevski, pensons à Raskolnikov, Crime et châtiment, où à un moment il y a le cri de vie qui fait mal à l'intérieur de l'homme parce que l'homme n'est pas dans la vie. Puis d'autre part, il y a la théorisation juridique de la culpabilité par Augustin. Et ça, nous avons affaire là à l'énorme problème du péché originel. Augustin veut éviter le fatalisme qu'il y a dans le manichéisme. Par là même, il veut responsabiliser l'homme. Et, que dit-il, le mal n'est pas une fatalité, l'homme l'a choisi. Je crois que cette idée d'une volonté pécamineuse, d'une mauvaise volonté, ayant choisi le mal, est catastrophique dans le destin de l'Occident, à double titre. Premier point, le texte biblique n'a jamais dit que Adam a choisi entre le bien et le mal et qu'il a choisi le mal. Si nous nous reportons au texte, nous avons affaire à un dispositif de séduction en chaîne. Le serpent séduit Ève qui séduit Adam. Et qu'est-ce que fait Adam ? Adam n'a pas choisi le mal par rapport au bien, il a pris du fruit de la connaissance de l'arbre du bien et du mal. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que Adam, au lieu de jouir de la vie, est rentré dans une vision humaine de la vie et a divisé celle-ci entre le bien et le mal. Il est impossible de choisir le mal. Platon le dit très bien. Il faut être fou pour choisir le mal. Si Adam choisit le mal, ça veut dire que Adam est fou. Ça veut dire qu'Adam a une mauvaise volonté. C'est incompréhensible. Comment est-ce que Dieu a pu laisser un homme avec une mauvaise volonté ? Comment est-ce qu'il a pu laisser choisir le mal ? C'est le tourment énorme de l'Occident devant le mal et la façon dont on a pensé la liberté. Je dirais que Adam, c'est l'homme qui est séduit par la part humaine des choses au lieu de vivre la part divine. Ça, c'est ce que disent les pères grecs. Ça, c'est ce que dit Grégoire de Nice. Alors, quel est le problème d'Augustin ? Augustin, pour responsabiliser l'homme, lui impute le choix du mal contre le bien. Il fait de l'homme un être incompréhensible qui, pour des raisons obscures, choisit le mal. Et, par là même, il culpabilise l'origine. L'origine, il n'y a pas de péché originel. Il n'y a qu'à l'origine, d'abord, il y a à l'origine un homme adamique dans la plénitude. Et par ailleurs, de quoi s'agit-il ? Il ne s'agit pas de parler de ce texte comme un texte historique, mais comme l'histoire de notre âme, c'est-à-dire l'histoire de la tentation. Ne nous laisse pas succomber à la tentation veut dire ne nous laisse pas tomber dans une vision des choses qui est celle de l'ego et celle de l'homme, mais permets-nous d'avoir toujours sur toute chose un regard divin. Donc, ce qui est grave avec Augustin, c'est que nous rentrons dans une vision du christianisme qui est juridique, où on responsabilise l'homme, on le met dans sa raison, et on ne parle plus du texte de la chute d'une manière mystique. Et du coup, on crée un nœud de problème.
Oui, mais alors justement, la controverse avec les Pélagiens est intéressante, encore qu'il a beaucoup controversé, effectivement. Mais je pense que c'est finalement, il me semble que c'est avec les Pélagiens que c'est le plus intéressant. Parce qu'on a l'impression aussi que par rapport aux thèses de Pélage, c'est là que Saint-Augustin finalement va avoir les linéaments qui vont se former de sa théologie finalement de la grâce et de la prédestination.
Oui, en même temps, la grâce, je pense que... il y avait largement réfléchi avant, mais d'une autre manière. C'était beaucoup plus le rapport de la liberté et de la grâce, de la nature et de la grâce. Bon, ce qui est humain, ce qui est divin, c'est un peu cette manière-là. Ensuite, ça a été les différentes formes de grâce comme telles. Et la prédestination, là, c'est un élément qui n'est pas très heureux chez Augustin. Mais au départ, il y avait une discussion intéressante entre Augustin et Pélage. C'est au bout de quelques années que les choses se sont durcies et qu'il y a eu une polémique. Alors peut-être il faudrait resituer les choses. Or, malheureusement, l'héritage augustinien ou l'augustinisme a figé ce qui était un débat chez Augustin. Parce que si Augustin revenait, il dirait peut-être qu'il a dit ça à une certaine occasion et que ce n'était pas du tout une théorie qu'il avait de manière définitive.
Mais c'est ça qui est assez étonnant et qui est en même temps assez attrayant dans son œuvre, c'est qu'on a l'impression que chaque chose qu'il avance, je ne dirais pas que c'est à titre d'hypothèse, parce que quand même il a souvent de très solides convictions, des convictions affirmées, mais que c'est, je dirais, au moins un état de sa pensée et qu'éventuellement il serait prêt à le dépasser.
Oui, et il le dit souvent. Parce que dans le don de la persévérance, il dit qu'il a beaucoup changé, beaucoup progressé et... à la limite, on n'a pas un état définitif à tel ou tel moment. Même dans le De Trinitate, il dit voilà ce que j'ai dit, mais ce n'est pas parfait et il y a beaucoup de choses à laisser de côté. Et cet ouvrage lui a été dérobé avant qu'il soit publié, et c'est la raison pour laquelle ça a été publié. Bon, il y a tout un ensemble de péripéties, et c'est vraiment quelqu'un qui semble antidogmatique. Et dont on a fait un peu un dogmaticien après au cours de l'histoire.
C'est en même temps là qu'il y a un mystère, Marianne Vanier, c'est que vous montrez bien comme il y a une sorte de liberté spirituelle finalement. Profondément chez Augustin, et de voir quel a été le sort de ce qu'on appelait l'augustinisme. Parce que là, on a l'impression quand même que les choses se sont énormément durcies, que d'une certaine manière, ça devient très dogmatique, et que lorsqu'on voit l'appel que l'on fait à Augustin durant tout le XVIIe siècle, etc., ça devient quasiment une autorité indiscutable en tant que telle.
Oui, et en même temps, vu différemment, parce que si on prend Port-Royal... là, il y a un radicalisme dans l'interprétation qui pose largement problème. Autrement, d'autres qui vont le commenter de manière plus large. Et tout le problème de l'augustinisme politique aussi, parce que Augustin n'en est pas venu à la séparation des deux cités. Il a bien montré qu'il y avait interpénétration constante. Mais de son vivant, même avec Paulo Rose, la reprise des deux cités a été catastrophique.
Je crois que la cité de Dieu n'est pas au bout de l'histoire, elle est à l'intérieur de l'histoire. Ce qui est très intéressant chez Augustin, c'est que quand même, il pense le politique sur le mode d'une anthropologie des passions. Et il montre que le problème politique est un problème qui se situe à l'intérieur de l'homme, entre, d'une part, ce qu'il appelle la concupiscence et d'autre part, la charité. Alors là, je trouve très fort, parce que il a intériorisé le problème politique pour le transformer en un problème intérieur. Et il montre qu'actuellement, il montre par exemple que la cité extérieure est en train d'attirer les hommes sur le mode de la concupiscence. Et qui sont les hommes intérieurs? Bon, à la cité de Dieu, c'est les hommes intérieurs qui œuvrent pour le royaume à l'intérieur de la cité, mais la cité est aussi la cité des hommes extérieurs. Vous voyez, je pense à des textes de Nietzsche où Nietzsche dit à un moment que la société est faite pour les faibles. Les gens, et je dirais que au fond, à sa manière, dans un langage chrétien, Augustin dirait que ce qu'on appelle la société, c'est un phénomène passionnel. C'est un phénomène d'aliénation. Et là, il y a quelque chose d'extrêmement subtil au niveau politique. Et au fond, ce serait intéressant de voir, vous voyez, peut-être que Michel Foucault, pendant ses méditations sur le pouvoir, commençait à poser le problème du pouvoir, de l'emprise, de la possession, des liens magiques et inconscients qu'il y a dans la société. C'est-à-dire, qu'est-ce que découvre Augustin du point de vue politique? Il y a un inconscient du politique. Et l'inconscient du politique, c'est la possessivité qui est manipulée par les pouvoirs politiques et économiques qui savent très bien attirer les gens dans le cycle de l'aliénation. Donc ça amène à parler du politique comme peu de gens en ont parlé, mais aujourd'hui nous demeurons très augustiniens quand nous faisons une critique des lobbies économiques et politiques qui attirent les hommes démagogiquement. Donc il y avait déjà des choses chez Platon dans sa critique du tyran qui étaient là. C'est-à-dire que Platon comme Augustin ont vu que la politique était une affaire d'inconscient, d'intériorité et de psychologie sociale.
Alors, il a peut-être envisagé trop de questions et de manière non définitive, ce qui fait que ses successeurs en ont fait après presque des vérités comme telles.
Oui, mais c'est cela qui pose problème, c'est qu'à travers, je dirais, l'Augustin qui nous a été transmis par notre tradition culturelle, on a l'impression que finalement, il faut repartir à la découverte du véritable Augustin.
Oui. Et je crois que aujourd'hui on a quand même de la chance parce que on peut reprendre les textes et essayer de trouver véritablement ses intuitions plutôt que de reprendre une sorte de vulgate d'Augustin, un mauvais augustinisme qui a marqué quand même des époques entières.
Cette réflexion et en même temps cette enquête sur la vie et sur la pensée de saint Augustin, je voudrais signaler le numéro de la revue Kairos, revue de philosophie, des presses universitaires du Mirail de Toulouse, le numéro dirigé par Laetitia Mouza, intitulé « Rationnel et irrationnel en philosophie ancienne », qui essaie de comprendre en profondeur effectivement ces deux catégories dont on sait à quel point souvent elles s'interpénètrent dans la pensée antique. Il suffit de penser au néoplatonisme, la manière dont il réintègre par exemple les oracles chaldaïques et où pourtant il fait preuve d'une démarche rationnelle extrêmement stricte. Et particulièrement, je voudrais signaler l'article de Sophie van der Meren qui nous rapproche de tout ce que nous venons de dire, intitulé « Rationale et rationabile dans le De ordine de saint Augustin ». Et où elle essaie de comprendre ce qui est le rationnel, c'est-à-dire ce qui est doué de raison, et ce qui est le rationabile, c'est-à-dire ce qui est conforme à la raison, et comment, d'une certaine manière, cela entraîne effectivement tout un certain nombre de distinctions extrêmement importantes, à la fois du point de vue de la conduite de l'entendement, mais en même temps du point de vue de la conduite humaine dans le monde tel qu'il est. La fonction propre d'une chose,
et donc celle qui est conforme à la nature, celle qui correspond à sa nature. Si le bonheur est une fin, c'est au sens d'un terme dernier, du terme de la tendance dans ce qui est naturel. Est heureux le vivant qui a atteint ce terme à travers lequel sa nature s'est pleinement réalisée. Et puis, puisque nous parlions du rapport de saint Augustin au péché et éventuellement à la souffrance qu'entraîne ce péché, je voudrais signaler l'étude de Samuel Terrain sur la figure de Job dans la Bible, bien entendu, aux éditions suisses Labor et Fides. Job, bien entendu, à son propos, il n'est pas question de péché, puisqu'il est l'héritier de toute la tradition de ce que, depuis Babylone, on appelle le juste souffrant, et que c'est beaucoup plus l'explication, précisément, de l'homme avec le Dieu qu'il ne peut pas comprendre, et devant lequel il finit par s'incliner, on le sait, avec la fameuse phrase « Dieu me l'a donné, Dieu me l'a repris, que le nom de Dieu soit béni ». Et Samuel Terrain, en revenant au texte hébreu, essaie précisément de relire tout en profondeur le livre de Job et de nous faire comprendre comment s'y installe l'idée d'une transcendance absolue, de cette transcendance qui est la marque même du monothéisme et qui, de ce point de vue-là, nous met tout à fait à part du point de vue philosophique et va faire d'ailleurs qu'un espace philosophique va pouvoir se créer dans notre culture. Lorsque Job déclare « Maintenant c'est mon œil qui te voit », la source de la connaissance n'est plus la tradition parlée, c'est l'expérience visuelle de la révélation prophétique. Le sage est devenu un prophète, et comme un prophète en présence de la sainteté transcendante, il est jeté dans l'abîme de la perte de soi. Et puisque nous sommes dans l'horizon biblique, je voudrais continuer par l'ouvrage de André Plessou, Actualité des anges, aux éditions Buchet-Chastel. On sait très bien qu'entre cette transcendance qui va se donner de plus en plus comme absolue et l'homme, dans cet abîme donc qui se creuse en même temps de l'homme vis-à-vis de l'humanité, va se poser la question à laquelle s'est heurtée toute la philosophie néoplatonicienne, mais à laquelle se heurte aussi la théologie, comment avoir connaissance de ce qui en principe est inconnaissable, comment avoir représentation de ce qui en principe est irreprésentable. D'où la nécessité de mondes intermédiaires, de mondes médiateurs, qui, d'une certaine manière, manifeste le transcendant, manifeste l'inaccessible, tout en lui gardant son secret. Et à travers ces univers de médiation, vont venir ce que l'on appelle précisément les mondes angéliques, c'est-à-dire la façon dont, à travers l'ange, non plus seulement messager, comme dans la théologie chrétienne tout à fait traditionnelle, mais en même temps gouvernant un monde de médiation, un monde de participation à la divinité et à la divinité voilée, il va se créer quelque chose qui est de l'ordre, effectivement, de l'accession de l'homme au mystère, tout en reconnaissant que c'est du mystère. Die Fantasei, die Paracels, ist nicht Imagination, sondern ein Extein der Narren. La fantaisie n'est pas l'imagination, mais frontière de la folie. C'est la distinction bien connue, opérée par Coleridge plus tard, entre fancy et imagination. La première est trompeuse, la seconde légitime. Les anges sont les maîtres du monde de l'imagination vraie, de l'imagination réelle, de l'imagination créatrice de son propre univers. Enfin, je voudrais terminer par l'ouvrage de William James, La volonté de croire aux empêcheurs de penser en rond. William James, on le sait, c'est ce philosophe empiriste qui nous est venu d'Amérique, le frère du romancier André James, et qui, précisément à partir de son empirisme, et donc à partir d'un certain nombre d'enquêtes extrêmement serrées, a étudié, et a étudié d'une façon qui a souvent influencé beaucoup de nos psychologues ou beaucoup de nos philosophes du début du XXe siècle, a étudié donc le rapport de la croyance et de la réalité. Et de ce point de vue-là, il y a comme une sorte d'examen scientifique, si l'on peut dire, de l'ordre de la croyance qui a énormément renouvelé tous les cadres de notre pensée. Dans la volonté de croire, il y a effectivement l'entrée, si l'on peut dire, dans ces mondes de la croyance à partir d'une position rationnelle et qui fait ressortir comme la croyance est aussi précisément une décision quasiment philosophique de l'individu
qui relève de l'acte de volonté propre. Savants et non savants, nous vivons tous sur quelques plans inclinés de crédulité, qui pour l'un penche de tel côté, et pour l'autre d'un côté différent. Que celui dont le plan ne penche dans aucune direction, ne jette la première pierre. En fait, les phénomènes de transe ont renversé pour mon esprit les limites de l'ordre naturel admis.
Les livres aujourd'hui. Un numéro de la revue Kairos, rationnel et irrationnel en philosophie ancienne, de Laetitia Mouza, aux éditions des presses universitaires du Mirail de Toulouse. Une étude sur la figure de Job, de Samuel Terrain, aux éditions suisses Labor et Fides. Actualité des anges, de Andrei Plissou, aux éditions Buchet-Chastel. Et La volonté de croire, de Willem James, aux empêcheurs de penser en rond. Les vivants et les dieux, une émission proposée par Michel Cazenave, avec aujourd'hui la participation de Marianne Vanier et de Bertrand Vergely. Texte lu par Frédéric Prévost, mixage Serge Ristich, réalisation Isabelle Huel.